Donc on va reprendre notre cours à l'endroit où on l'avait laissé, c'est-à-dire au moment où les Juifs sortent de l'oppression hellénistique et redeviennent libres. Ça ne va pas durer longtemps. Donc le paragraphe 2, c'est la période romaine. Voilà. Alors, de l'indépendance, grand A, c'est de l'indépendance à l'occupation. Alors, trois points. Premièrement, c'est l'indépendance, c'est ce qu'on appelle le royaume asmonéen, du nom de la dynastie. Vous vous souvenez que un des frères de Simon, le grand prêtre, en s'appuyant sur Rome et sur Sparte, va réussir à obtenir des Grecs de Syrie l'indépendance de la Judée, donc de Jérusalem. Et cependant, il finira par être assassiné dans un guet-apens par les Séleucides qui renoncent difficilement à maintenir leur hégémonie sur la région de Jérusalem. Alors, le fils de Simon, qui s'appelle Jean Hyrcan, s'appuyant sur les Parthes, toujours les alliances de revers, les Parthes, ils sont à l'est du royaume Séleucide, en s'appuyant sur les Parthes qui vont menacer le royaume hellénistique, ils vont reconquérir leur indépendance. Il va soumettre également l'Idumée, qui est une région qui se trouve un peu à l'est du Jourdain, la Décapole, toutes ces régions-là, ce sont des régions un peu païennes, un peu mélangées, et aussi la Samarie. Donc, il va reconstituer un État assez plus important, mais il va s'éloigner de l'idéal initial de ceux qui s'étaient révoltés contre les Séleucides, l'idéal religieux des Hassidim, c'est-à-dire des purs. Ces Hassidim, du coup, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont former un parti religieux dans le royaume qui devient un peu moins religieux, donc un peu plus temporel, si vous voulez. Et ça va être le parti des pharisiens. Parti des pharisiens qui va s'appuyer sur les scribes et les docteurs de la loi, qui sont les spécialistes de la Bible, et aussi de la manière de la vivre au quotidien, avec tous les commandements, etc. Et ils vont former un courant d'opinion, en gros. Ils vont pratiquer ça, alors que l'élite étatique a tendance, du coup, à prendre du recul par rapport à l'engagement religieux. Et c'est d'ailleurs ce que va faire Jean Hyrcan. Il va renverser les alliances, si on veut, et il va s'appuyer sur la noblesse religieuse. C'est quand même un peu un comble. Donc, ceux qui sont les moins religieux, c'est-à-dire la noblesse religieuse, les familles sacerdotales du temple, qui en fait sont les familles possédantes. Donc, il va s'appuyer sur les possédants, le parti des Sadducéens, descendants du grand prêtre Sadoc, et qui assure le culte du temple, et donc brasse les affaires du temple, en superficie de Jérusalem, ça doit être à peu près un cinquième à l'époque. Ses successeurs n'hésiteront pas à faire massacrer les pharisiens par milliers quand les pharisiens se révoltent en disant que la recherche de l'indépendance était une fin religieuse et que là, la fin religieuse est détournée par la royauté la royauté hasmonéenne. Alors, en tout cas, évidemment, les gens vont comme ça arrive souvent, il va y avoir des guerres de succession entre dynastes et qui vont aboutir à des guerres intestines, évidemment, et ça va attirer l'attention de la puissance montante dans la région, qui sont les Romains, qui ont fini par triompher définitivement des Grecs, des Séleucides en particulier. Et si bien que, profitant des troubles qui règnent dans ce royaume de Judée-Samarie, etc., eh bien, Pompée va rattacher la Judée à la province de Syrie. Hein. Les Séleucides ayant été évincés, la Syrie forme une grande province romaine, et associer ou rattacher la Judée à cette province. Et le roi verra ses fonctions réduites simplement à ses fonctions sacerdotales. Donc, famille sadducéenne, il restera grand prêtre, mais il n'aura plus la charge de gouverner, elle passe directement au gouverneur romain. Alors, ce n'est pas encore une province, mais c'est un protectorat. Hein, et si les Romains avaient profité des guerres intestines entre Judéens, les Judéens vont profiter des guerres intestines entre Romains. Et c'est notamment le cas de Jean Hyrcan II, qui va s'associer au gouverneur d'Idumée pour prendre le parti de César contre Pompée. Et donc Antipater, ce gouverneur païen. Et du coup, pour récompenser Antipater de son soutien, eh bien, César lui attribue le rôle d'ethnarque, hein, c'est-à-dire de chef de l'ethnie, de chef du peuple, chef de la nation, et va accorder au judaïsme le statut de religio licita, hein, de religion licite, qui permet justement, qui procure d'ailleurs de grands avantages à tous les juifs de la diaspora, qui du coup se retrouvent, qui peuvent pratiquer leur religion comme une des religions de l'Empire. Alors les Sadducéens se retrouvent évidemment dépossédés du pouvoir, puisque en fait le pouvoir passe à Antipater, qui est d'origine païenne, et ils vont profiter de la menace parthe. Vous savez que les parthes vont devenir les ennemis mortels des Romains pendant des siècles. Au Moyen-Orient, pour rétablir au profit de la dynastie hasmonéenne l'indépendance perdue. Donc il va y avoir à nouveau des luttes de pouvoir, mais ça ne va pas durer longtemps, parce que le fils d'Antipater, il s'appelle comment? Hérode. Et alors Hérode, il va liquider les Sadducéens qui cherchaient à reprendre le pouvoir. Comment?
C'est Hérode le Grand.
Hérode le Grand, oui. Et il va s'appuyer sur les Romains, puisque les autres avaient eu la faiblesse de s'appuyer sur les Parthes. Lui, il va s'appuyer sur les Romains et il reprend la Judée. Alors, il va jouir d'une grande autonomie. Une autonomie plus grande que celle que possédaient les Judéens sous le gouvernement de Pompée. Et il va affermir son pouvoir par une politique, vous savez, un petit peu de grands travaux, un peu paranoïaque quand même, il faut bien le dire. Donc, fait construire des forteresses, son gigantesque tombeau, il fait reconstruire le temple. Et il liquide systématiquement ses adversaires, y compris à la manière stalinienne, tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre, notamment ses enfants, dont il suppose qu'à un moment ou à un autre, ils pourraient devenir ses concurrents. Alors, le meilleur moyen, c'est que... Vous voyez, souvenez-vous de David, hein, avec Absalom, les mécontents du règne de David s'étaient groupés derrière son fils et ils avaient soulevé le fils contre le père. Alors, pour éviter ça, et ben lui, il fait tuer ses fils. Et après, il n'y a plus de problème de succession. Hein, donc.
C'est la paix des cimetières.
Oui, c'est ça. Alors, il va... Et alors, comme il est païen, lui, il est complètement païen, il va helléniser, en fait, la Judée pour plaire aux Romains, en fait. Il fait construire théâtre, amphithéâtre, hippodrome. Il fait reconstruire Samarie, l'ancienne capitale du royaume du Nord, qui va doter d'un temple, mais d'un temple à Auguste, donc au grand scandale des Juifs, qui ne cherche cependant justement à faire aussi à gagner en leur faisant reconstruire le temple de Jérusalem. Donc d'un côté, il fait construire un temple pour les païens, et puis le temple pour les Juifs. Enfin, il cherche à jouer sur tous les tableaux et à équilibrer les différents courants ou les différentes ethnies de son royaume. Et c'est un travail qui sera gigantesque, hein, comme on voit encore le soubassement du temple aujourd'hui, allant jusqu'à faire travailler 10 000 ouvriers à la fois. 10 000, donc sur le chantier, on dira que ça a duré 46 ans, eh bien, il y avait à certains moments jusqu'à 10 000 ouvriers, manœuvres, qui travaillait.
Ouais, c'est 50 avant la naissance de Jésus-Christ.
Oui, oui. Oui, c'est à peu près ça. Les 46 ans, parce qu'il meurt vers moins 10, quelque chose comme ça.
Plus tard.
Oui. Mais le temple était-il terminé au moment de sa mort? Je ne suis pas certain. Je ne crois pas. Voilà, je crois que les travaux sont commencés en 20, j'avais noté finalement, en 20, et finiront en 62. Donc de moins 20 à plus 62.
De moins 20 à plus 62. À plus 62, oui. Ça fait 80 ans.
C'est pas fini au temps de la...
Oui, non, c'était pas fini au temps de Jésus, en fait.
Ça fait 82 ans.
Oui. C'est-à-dire que quand c'est au moment où Jésus dit ça fait 46 ans que le temple est en construction.
Oui,
c'est ça. Oui, il est mort après. Oui, il est mort après. Je pense qu'il est mort vers 4 ou un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça.
Il n'aura pas duré longtemps ce temple.
Ah non, c'était le plus gigantesque. Oui. C'est l'Hérode de Saint Innocent.
Ah oui, c'est l'Hérode de Jésus.
Et je pense qu'il a dû, c'est peut-être moins 4, effectivement, le moment où il meurt, parce que Jésus est né plus ou moins en moins 6, oui. Alors, ce qui est aussi original. Il est né avant sa naissance. Alors donc, il fait aménager aussi de puissantes forteresses, comme celle de Massada, vous savez, qui est dans la vallée du Jourdain, dans le désert de Juda. Et puis aussi cette espèce de tombeau qui se fait construire, qui s'appelle le Hérodion, qui est une sorte de grande, de cité. Enfin,
c'est pas... de Bethléem.
Oui. On le voit de Bethléem, je crois bien. Et Massada avait donc comme l'eau est rare là-bas. Pour soutenir un siège, il faut avoir des citernes. Et forteresse avait des citernes pouvant contenir 32 000 mètres cubes d'eau, 32 000 tonnes d'eau. C'est énorme, hein? C'est la taille d'un cuirassé de la guerre de Deuxième Guerre mondiale, en gros.
32
000 mètres cubes, 32 000 tonnes. Ah, ça fait beaucoup. Hein.
C'est comme ça qu'ils ont pu soutenir le siège.
Oui, c'est ça, qui a duré très longtemps. Et pendant ce règne, qui est un règne très long, qui n'est troublé par aucune guerre, eh bien, la population croît pour atteindre 1,5 million d'habitants. C'est beaucoup, hein. Alors, il faut se dire que 500 ans plus tôt, à l'époque de Josias, on devait avoir 150 000 à 200 000 habitants. Et là, maintenant, on est à 1,5 million pour la Judée-Samarie. C'est quand même considérable. Alors, bien sûr, du temps de Josias, on n'avait pas toute la Samarie. Mais enfin, on pensait qu'il devait y avoir 150 000 habitants dans le royaume du Sud, un peu agrandi. Et là, dans le royaume du Sud, plus une partie du royaume du Nord, on a 1,5 million d'habitants.
Ils sont 6 millions
actuellement. Oui, et en fait, ils n'ont pas tellement grandi. Hein. Ils sont peut-être plus quand même, non?
Non, je pense que 6 millions en Chypre.
Oui, c'est ça.
600 000 en France, 6 millions en Israël.
Ouais, oui, oui. Dans le reste, oui. Territoire. Alors, il faut dire aussi que là, c'est vraiment des juifs ethniques. Tandis qu'après, avec la conversion des Khazars, il y aura des... Ben, c'est cette tribu caucasienne là, qui était passée à l'islam d'abord, oui. Puis en plus qui est repassée au judaïsme, enfin, qui ont beaucoup hésité, un peu comme les tribus russes, qui se demandaient à quelle religion se rattacher. Eux, ils sont rattachés au judaïsme.
Et qui étaient juifs au départ ou pas du
tout? Non, pas du tout. Et ça, c'est ça qu'a donné les Ashkénazes. Hein. C'est ce qu'on appelle la treizième tribu. En fait, il y a eu des peuples qui sont convertis au judaïsme et qui n'étaient pas juifs. Alors, certains étaient sémitiques, comme par exemple certaines tribus du désert en Arabie. Et puis il y a d'autres, parce que c'est une religion qui était assez fascinante, hein, par son monothéisme, par son, en fait aussi, pas aussi par sa moralité. Donc il y a des peuples qui se sont laissés séduire par le... Enfin, quand on dit des peuples, c'est souvent le prince, et puis les gens ont suivi. Hein.
Ce sont eux qui dirigent aujourd'hui.
Ah bah oui. Oui, oui, clairement. Et c'est pas nécessairement les plus juifs. Hein.
C'est pas les séparatistes.
Non, non.
C'est pas les séparatistes d'Israël.
Oui, les séfarades, alors ça serait les vrais juifs d'origine qui seraient... qui se serait, alors selon certains, se serait distingué des Cananéens ou des Palestiniens juste par le fait d'avoir choisi une religion qui était différente, mais qui, enfin, c'est la même race, hein, si on peut dire. Enfin, si aujourd'hui on peut le dire encore.
Ethnie, la même ethnie.
On peut le dire entre nous.
Voilà. Alors, donc on arrive à quelque chose d'assez grandiose, un royaume puissant, quand même dans l'orbite romaine, bien sûr. Et on va passer du protectorat à la province. Alors comment? Donc Hérode meurt effectivement en 4 Antéchristum. Et Auguste va supprimer la royauté et va diviser le territoire en plusieurs parties, et il va exiler certains descendants qu'il juge impropres. Donc Archélaüs qui disparaît qui est exilé en 6 post-Christum, puis Hérode Antipas qui sera exilé en 39, lui, donc plus tard. Alors c'est ce fameux Hérode Antipas qui avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe, et qui avait répudié sa première femme, qui était une princesse nabatéenne. Donc les Nabatéens, c'était des Arabes qui étaient au sud, autour de la mer Morte, là. Et les Romains, donc ça va évidemment, ça n'a pas plu aux tribus nabatéennes, qui se sont révoltées. Enfin, qui ne sont pas révoltés, mais qui ont voulu, punir Hérode Antipas. Du coup, ça a créé des troubles. Et les Romains n'aiment pas les troubles dans les pays qu'ils dominent. Et ils sont obligés d'intervenir pour rétablir l'ordre. Et ils ont dépossédé le fautif. Ils ont puni le fautif en le dépossédant de sa portion de royaume. Et la même année, d'ailleurs, Philippe mourra. Et donc, ça en fait deux qui vont disparaître. Hérode Antipas et Philippe. Archélaus lui est déjà exilé. Et donc, finalement, il n'y a plus de dynastes véritablement dans le pays. Et dès l'année 6, déjà la Judée administrativement avait été rattachée à la province de Syrie, gouvernée par le fameux Quirinius dont on nous parle dans l'Évangile, et qui était représenté dans ce pays qui n'était pas encore totalement intégré à la province, puisqu'il y avait toujours la fiction des royaumes, par un procurateur donc, qui s'occupait des affaires pour le gouverneur de Syrie, donc le fameux procurateur qui était le titre du représentant du gouverneur de Syrie. Alors, les impôts, les lourds impôts, levés par les publicains, donc ces gens comme un peu comme des fermiers généraux en fait, hein, qui se servaient sur ce qu'ils levaient et qui donc levaient ce qu'ils avaient envie de lever, vont conduire à des révoltes sporadiques des gens, des gilets jaunes locaux, et qui vont être soutenus. Alors enfin, ça commence par une révolte fiscale, mais en même temps qui n'est pas sans rappeler les décennies antérieures où on avait quand même une plus grande liberté, où on avait un royaume autonome, etc. Donc il y a tout un parti qui, autour de cette révolte fiscale, va s'organiser, qui sont les zélotes, et qui vont multiplier donc les révoltes contre l'assujettissement fiscal aux Romains, et ça va aboutir à des répressions féroces. Par exemple, quand Jésus dit qu'il faut prendre sa croix, les Romains, les Juifs comprenaient très bien de quoi il s'agissait, puisqu'il y avait déjà eu des révoltes que les Romains avaient réprimées en crucifiant les zélotes et leurs partisans sur tous les hauts lieux, de manière à ce que partout où un juif passe, il voit un crucifié qui lui rappelle qu'on ne défie pas impunément le pouvoir romain. Oui. Alors, on voit apparaître le personnage de Caïphe, qui va être grand prêtre en 18, et qu'il sera jusqu'en 37. On voit apparaître aussi le personnage de Ponce Pilate, qui est nommé procurateur en 26, et qui va se distinguer, lui, particulièrement par sa brutalité, noyant dans le sang tout mouvement pouvant donner lieu à une révolte. Voilà. Donc lui, il est partisan d'étouffer dans l'œuf tout ce qui peut se produire. Ah oui, c'est ça.
Il les tue.
Ah ben il tue, oui, c'est ça. Tu emprisonnes, etc.
Se répète toujours.
Et
d'avancer encore.
Et c'est sur ce penchant à écraser les rébellions dans l'œuf que vont jouer les Sadducéens, pour une fois liés aux pharisiens, pour obtenir la mort de Jésus, certainement dans l'année 30. Ce qui est terrible, c'est que Ponce Pilate va tellement franchir les bornes que c'est l'administration romaine de Rome qui va le rappeler pour explication, et on va l'exiler ensuite en France.
Ah, oui. Il a fait une descendance.
Oui, oui.
Et alors, connage.
Oui, ah bon,
c'est
oui.
Ce qu'on dit. Oui.
C'est ce qu'on dit.
À Saint-Bertrand de Comminges.
Il aurait fini à Saint-Bertrand.
Ah, Saint-Bertrand de Comminges.
C'est où ça?
C'est dans les Pyrénées.
La Val d'Aran, oui.
Et alors, il a été, il sera plus tard. Et c'est pendant la vacance du siège, puisque le procurateur étant plus là, le successeur étant pas encore arrivé, que les autorités juives qui étaient dépossédées de la haute justice vont devoir l'assumer pendant la vacance, et qu'on va s'empresser de liquider Jacques à un moment. les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort. Et là, comme il n'y a plus d'autorité romaine, eh bien, ils retrouvent ce pouvoir ou ils le prennent. Oui, et Jacques le. Oui, voilà. Et c'est là où il y aura une violente persécution contre les chrétiens à Jérusalem et que justement, providentiellement, les chrétiens vont quitter Jérusalem et du coup, ils ne seront plus du tout impliqués dans les révoltes qui vont suivre. Alors justement.
Ils ne seront plus là pour la destruction.
Enfin, non, ils seront partis. On voit ça avec l'histoire d'Étienne, vous savez.
Ils partent à peu près à quel.
Au moment de cette vacance, qui verra aussi la mort de Étienne. Hein, et on nous dit à ce moment-là, dans les Actes des Apôtres, que les chrétiens quittèrent Jérusalem et partirent. Alors l'existence de Jésus nous est confirmée donc par des documents d'origine païenne que vous devez connaître. Hein. Oui. Alors Tacite, notamment dans ses annales, raconte que Néron, accusé par la rumeur publique de l'incendie de Rome, alors, je le cite, « supposa des coupables et infligea des tourments raffinés à ceux que leurs abominations faisaient détester et que la foule appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christos, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. » Donc voilà, c'est l'idée. Alors pourquoi abomination ? Parce qu'on accusait les chrétiens d'inceste à cause du baiser fraternel dans la liturgie. On les accusait de cannibalisme à cause de la communion. Et donc de choses de ce genre, c'est-à-dire de choses mal comprises par le petit peuple et qui n'avaient pas envie de comprendre probablement aussi. Et que les autorités trouvaient pratique pour pouvoir accuser des gens. L'infanticide aussi, oui. Alors l'infanticide, c'est un peu étrange parce qu'au contraire, comme dit l'épître à Diognat, qui justement s'en défend en disant bah, « Nous, au moins, on ne pratique pas l'avortement ni l'exposition des enfants. » Alors ce qui était loin d'être le cas à cette époque, parce que la politique des empereurs, ça va être une politique nataliste à l'époque, hein, parce qu'ils commencent à se rendre compte que la population romaine, à cause de la prospérité, voit sa natalité réduite et qu'on est obligé de plus en plus de faire venir des immigrés pour les travaux que les Romains ne veulent plus faire. Hein. Ça, vous savez, c'est une chose, l'histoire parfois se répète un peu. Hein.